Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Salut Emma.
Salut.
Tout va bien?
Oui, ça va, merci.
Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour le podcast de Génération Engagée.
Avec plaisir.
Bah, j'aimerais que tu te présentes auprès de nos auditeurs. Qui es-tu, Emma?
Alors, je suis collaboratrice pour les engagés à la Chambre des représentants. J'ai commencé il y a quelques mois et je m'occupe des commissions économie et finances et un petit peu la commission énergie-climat.
Beaucoup à faire.
C'est l'idée de suivre à la fois le travail législatif des autres groupes, donc analyser les textes, que ce soit ceux des députés des autres partis ou ceux du gouvernement, proposer des interventions, des amendements, des notes, et également donc s'occuper de nos propositions législatives ou nos propositions de résolution, et donc voilà, écrire les textes, porter les dossiers, les suivre en collaboration avec les députés et le reste de l'équipe.
Mais donc il y a beaucoup, hein.
Oui, c'est un travail à temps plein. Et toi, tu fais quoi?
Bah écoute, moi c'est Florian, j'ai 18 ans et je suis étudiant en relations publiques à la haute école de la ville de Liège. Et je suis actuellement co-président de la province de Liège pour Génération Engagée, donc voilà, avec Julian comme binôme.
D'accord.
Et donc voilà, on se retrouve ici pour discuter des influenceurs et de la proposition de loi que les engagés vont proposer bientôt.
On l'a déjà...
Ah, c'est déjà fait.
On l'a déposée, elle est en train d'être traitée par les services, donc on a suffisamment bien travaillé pour avoir un projet assez conséquent en nombre de pages, ce qui fait que, voilà, la traduction prend son temps, mais on devrait pouvoir commencer le travail législatif du texte en commission dès la rentrée de septembre. Donc voilà, on a de grandes attentes sur ça, je suis très contente que tu aies entendu parler du projet, parce que ça nous tenait vraiment à cœur, et puis ça, c'est vraiment un beau dossier, donc on espère que ça aura l'impact qu'il mérite. Donc,
Bah, et puis ça modernise un peu, je trouve, parce que je ne savais pas personnellement que la politique allait s'intéresser un jour aux influenceurs. Je pense que quand on se rappelle, il y a peut-être en 2015, etc., qu'on parlait de ça, c'était tout nouveau, hein, on se comprend. Ça donne une nouvelle image à la politique et je trouve que c'est cool de voir que les politiques savent aussi s'adapter au monde moderne et ça, c'est génial.
Moi, j'ai fait des études de droit en France et une des premières choses qu'on nous a dit en cours de droit, c'est qu'il fallait, voilà, il fallait qu'on soit prêt à ce que le droit ait constamment 10 ans de retard sur la société.
Ah oui.
Et en fait, 10 ans, c'est au moins 10 ans. Hein. Et sur tous les sujets de société, on se rend compte qu'en effet, le droit arrive souvent 10 ans après. C'est normal, il faut que la situation soit suffisamment établie pour pouvoir venir faire un cadre réglementaire. Et ce qui est vachement intéressant quand on passe du coup du côté politique, c'est qu'on peut un petit peu agir pour essayer d'atténuer ces 10 ans, et bon, forcément on arrive derrière, puisqu'il faut que la situation, voilà, qu'il y a un cadre défini, il faut qu'on puisse comprendre les pratiques, et là je suis contente parce que j'ai l'impression qu'on est à moins de 10 ans après, et c'est vrai que c'est vachement important de donner un cadre, que ce soit pour les influenceurs, pour les consommateurs, pour les agences, donc voilà, on a essayé vraiment de faire ça de manière large, et on pourra en parler un peu plus en détail, mais l'idée c'est de protéger le secteur, le réguler, protéger les consommateurs, et puis voilà, de mettre un cadre, quoi.
Ok, bon Emma, je vois qu'on a très bien commencé la discussion, et je te propose, avant qu'on continue plus loin, qu'on passe maintenant au lanceur de discussion. Ok, Emma, je vais te donner un jeu de cartes et tu vas tirer au sort sur ces cartes et tu vas trouver deux questions et tu vas la lire tout haut pour qu'on puisse voir ce qui est écrit dessus. Et tu as choisi une des deux et on va répondre ensemble à cette question-là.
Ok, très bien.
Alors vas-y.
Qu'est-ce qui te met le plus de mauvaise humeur? Donc c'est la première question. Et la deuxième, en quoi voudrais-tu être meilleur? Bon, je sais pas, peut-être la deuxième question ou...
On va être optimiste.
Oui, voilà. Donc en quoi voudrais-tu être meilleur? Je sais pas, est-ce que t'as envie de commencer?
Ouf, bah écoute, là, au moment où vous écoutez le podcast, je serai en Italie.
Ok.
Et donc, je peux vous le dire que pour l'instant, ça se limite à pronto, pizza, Michiamo Florian, et c'est bon comme ça. Donc j'aimerais vraiment être meilleur en italien, et j'espère que les vacances que je vais passer en Italie vont me permettre de m'améliorer en italien. Et toi, du coup, qu'est-ce que...
Bah du coup, ouais, je pourrais dire en flamand, parce que je pars de zéro étant française, récemment arrivée en Belgique, et je le sens de temps en temps à la Chambre des représentants que, oui, bah... On me parle en flamand et je suis incapable de dire un seul mot et je me sens mal, je me sens obligée de dire je suis française de France pour me justifier. Mais non, après je commence dans la vie professionnelle, donc je pense que voilà, les perspectives d'amélioration en tant que voilà, débutante dans la vie professionnelle et sont importantes, de même pour l'équilibre entre voilà, vie personnelle, vie professionnelle pour avoir un mode de vie épanoui.
Mais t'as des notions du néerlandais quand même ou
Non.
Ah,
non. Bah moi j'ai fait italien.
Donc, ah ben, voilà. on va échanger parce que j'ai fait un stage à Asselt en plus, donc en communication, donc ouais. Justement, donc on pourra en reparler par après.
Ouais, ouais. Donc non, moi, ayant grandi dans le sud de la France, on était italien ou espagnol, donc le néerlandais est très éloigné de ça, et malheureusement, à part dire bonjour et merci, et puis quelques notions, genre amendement qui revient souvent en commission, non, je n'ai pas de notions, mais j'ai envie de progresser.
C'est ça qui est cool. Alors maintenant, Emma, je t'invite à ce que l'on passe à la partie discussion ouverte. Donc, on va pleinement discuter des influenceurs et de la proposition des engagés.
D'accord. Alors, je vais peut-être faire un petit récap. Donc, on a commencé à travailler sur le sujet vraiment à fond il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà, on a fait ça, donc on est allé assez vite parce que le dossier le méritait, qu'on avait vraiment envie d'aboutir rapidement avec un texte complet, et on avait quand même la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur l'exemple français. Et donc c'est Vanessa Matz qui est venue donc solliciter plusieurs collaborateurs qui travaillent sur différentes matières, puisque c'est un sujet qui englobe à la fois des questions économiques et aussi des questions liées au travail, notamment au travail des enfants, et également tout ce qui est lié au numérique. Donc ça, on a monté une équipe autour de ce projet, ce qui nous a aussi beaucoup motivés. Et donc finalement, en 2-3 semaines, on avait abouti à un texte, et on a fait attention à ce que voilà le texte soit cohérent avec ce qui a été fait en France, puisque l'idée, c'est que l'encadrement soit le même pour tout le monde au niveau de l'Union européenne. Voilà, c'est une ambition qu'on a. Mmh.
Est-ce que tu peux définir justement ce cadre-là, parce qu'il y a beaucoup de préjugés qu'il y a sur les influenceurs, ouais. Notamment, il y a la pression que les influenceurs peuvent facilement aussi échapper, je veux dire, à toutes ouais. les règles de taxes, je veux dire, en Belgique, pour par exemple aller dans des paradis fiscaux comme Malte pour signer leur contrat et ne pas payer d'impôts en Belgique. Est-ce que tu peux essayer de clarifier un peu toutes ces idées
bien
reçues
sûr. Alors, la première chose était vraiment de définir la notion d'influenceur, chose donc, voilà, ce n'était pas fait en droit en Belgique, ce n'était d'ailleurs pas fait en France ni dans d'autres pays, c'est une notion beaucoup trop récente pour qu'elle ait été définie en droit, donc c'est ce qu'on a fait, et l'idée dans ce cas-là, c'est vraiment d'objectiver la notion. Donc, est un influenceur celui qui se livre à une activité d'influence commerciale sur les réseaux. Donc, c'est vraiment l'idée de, à un moment donné, je suis influenceur si j'utilise mes réseaux sociaux pour avoir une activité commerciale, typiquement de la publicité, des placements de produits. Mais donc, voilà, quelqu'un qui est suivi par 1000 personnes ou par 1 million de personnes peut être un influenceur, c'est pas ça qui détermine, c'est vraiment ce qu'il fait. S'il fait de l'activité donc qui vise voilà promouvoir des produits, c'est une activité commerciale, je suis influenceur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on parle d'activité commerciale, le droit, il va s'appliquer aussi en fonction de la nationalité des consommateurs. Donc je suis un influenceur belge, que je sois en Belgique, que je sois à Dubaï, que je sois à Malte, en fait, si les gens qui me suivent et qui achètent les produits pour lesquels je fais de la publicité sont belges, eh bien c'est le droit belge qui s'applique. Et donc c'est là où nous on a un levier vachement intéressant, c'est que donc les différentes interdictions qu'on va poser ou la régulation qu'on va poser va être applicable. Et maintenant c'est également posé le problème donc de comment contrôler, comment finalement attraper ces influenceurs. Et donc là on agit en fait sur une obligation d'avoir un représentant légal dans l'Union européenne. Je suis un influenceur, je veux viser l'audimat de l'Union européenne, mais j'habite en dehors de l'Union européenne, je suis obligé, enfin du coup avec cette proposition de loi, je vais être obligé d'avoir un représentant légal ici, qui va devoir répondre de mes actes auprès des autorités, qui doit disposer de suffisamment d'informations pour pouvoir voilà être en dialogue avec les autorités, et donc ça permet d'avoir vraiment un point de contact pour pouvoir sanctionner les influenceurs. Et on va réguler également donc la question des agents, qui peuvent être en dehors de l'Union européenne ou non, et donc en fait avec ces obligations-là de point de contact et également l'obligation d'avoir des contrats écrits, on peut venir beaucoup mieux réguler le secteur.
Donc dès qu'il y a un contrat vraiment qui est écrit et établi entre la partie, je veux dire, l'entreprise ou la marque qui va contacter l'influenceur, et justement cet influenceur-là, du moment que c'est fait dans un cadre de l'Union européenne, alors cette proposition aura effet alors.
Oui, en fait, c'est l'idée que donc les contrats dorénavant seront obligatoires à partir du moment où il y a une activité publicitaire. Mmh. Les contrats, alors là on est sur un aspect un peu plus technique, mais en gros, si la plupart des consommateurs qui sont visés par ce contrat sont belges, mais il faut que ce soit vraiment la majorité, on est sur le droit du contrat belge. Sinon, okay. On va être sur le droit du contrat français ou autre. Mais c'est vraiment dans la pratique. Si je fais par exemple la publicité pour des produits du tabac, c'est interdit en Belgique, c'est interdit dans d'autres pays. S'il y a des consommateurs belges qui sont impactés par ça, parce qu'ils regardent ou parce qu'ils peuvent acheter, eh bien, c'est le droit belge qui s'applique. Et pour sanctionner l'influenceur, s'il n'est pas en Belgique, on va aussi passer, du coup, par ce représentant qui est établi dans l'Union européenne. Et donc, c'est quelque chose de tangible.
Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir dans un aspect plus global que simplement regarder, je veux dire, la petite Belgique qui a très peu de pouvoir en soi.
Oui, puisque surtout on voit que les influenceurs francophones finalement sont autant des influenceurs belges que français. Ils touchent un public autant belge que français, d'où vraiment l'importance aussi d'avoir une cohérence dans les législations. Donc c'est quelque chose qui est global, ça dépasse les frontières, on peut pas se limiter à une vision qui est concentrée sur la Belgique. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir jouer en fait sur où sont les consommateurs, parce que c'est ça qui est important, pas où sont les influenceurs en fait. Ils sont où ils veulent. Alors on peut critiquer ou pas les choix qu'ils font, mais à la limite c'est leur image. Par contre, ils respectent les mêmes règles.
Et c'est ça qui est important finalement, c'est vraiment protéger le consommateur comme tu le dis.
Oui, c'est important de protéger les consommateurs, c'est aussi important de protéger les influenceurs, dans le sens où si on va venir avec un encadrement clair et qu'ils savent en fait quelles règles ils doivent respecter, eux-mêmes ne se mettent pas dans des situations et ils sont hors règle, ou alors ils le savent. Là, ce qui est un petit peu flou, c'est qu'on se rend compte en fait que beaucoup d'influenceurs ne savent pas quelles sont leurs obligations, ne savent pas quels sont leurs droits non plus.
Bah oui, et il y a un truc surtout moi qui m'avait surpris, donc parce que j'ai vu que dans la proposition on parlait de protéger les enfants notamment, moi il y a un cas qui m'avait sidéré, c'était le cas de Neo S1 en France.
Ah oui, ça, c'était... oui. Non mais il y a beaucoup d'exemples, et c'est vrai que pour nous c'était une difficulté supplémentaire, parce que à la fois dans les gens qui regardent, les viewers, il y a des mineurs, mais également dans les influenceurs. Et là, c'était un problème de où est-ce qu'on se place en fait dans le cadre du droit du travail des mineurs. Et en fait, on a la chance en Belgique quand même d'avoir une loi qui encadre le travail des mineurs. Donc le principe, c'est que c'est interdit. Et il peut y avoir en fait des dérogations accordées en fonction des secteurs. Et on a ajouté du coup parmi ces dérogations pour la dérogation pour les enfants influenceurs. Mais ça veut dire qu'on se place dans le cadre du droit du travail. Et pour ces dérogations, il faut avoir un accord notamment de l'école, des services sociaux. Il y a un contrôle qui est fait. Il y a des balises très claires qui sont mises. Et donc on ne pourra plus faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mmh. Les parents ne pourront plus exposer leurs enfants à outrance. Ou alors, enfin, il y a un contrôle qui est fait. Donc ce n'est plus le Far West quoi. Et ça, c'est vraiment important. D'autant qu'on n'est pas à l'abri que d'ici quelques années, des influenceurs qui étaient enfants sur les réseaux sociaux, mis en scène par les parents ou autres, se retournent contre leurs parents parce qu'en fait ils n'étaient pas totalement d'accord avec l'image d'eux qui était montrée. Et on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens de cet exemple du bébé qui a fait la couverture de l'album de Nirvana, un bébé nu dans l'eau, il a fait un procès. Voilà, et je pense que des procès comme ça, on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres dans les années qui viennent.
Ça m'étonnerait pas, hein, d'autant plus que vraiment quand on est enfant, on est très peu conscient de l'ampleur que ça peut prendre, et que tu le veuilles ou non, ce que tu fais quand t'es enfant, dès que c'est sur internet, ça aura un impact sur ta vie plus tard.
Oui.
Donc c'est ça qui était super important, je trouvais, et que je trouve vraiment intéressant avec cette proposition, c'est qu'on puisse avoir une régulation qui va permettre à ces enfants-là de pouvoir mieux se défendre et de mieux aussi anticiper ces choses-là, parce que même si tu portes plainte, tu auras toujours de toute façon une trace qui sera dans ta vie.
Oui, et justement, on a aussi souhaité rappeler donc le droit à l'oubli dont bénéficient ces enfants, et donc au moment où on donne la dérogation pour que l'enfant puisse travailler sur les réseaux sociaux, on a voulu inscrire noir sur blanc que la personne qui donne cette dérogation rappelle à l'enfant et aux parents que l'enfant bénéficie de ce droit à l'oubli, que entre maintenant sa majorité plus tard, il peut toujours l'utiliser, et que il y a des règles au niveau belge, au niveau européen, et en fait c'est à la fois rajouter des nouvelles règles pour mieux réguler le secteur et aussi rappeler de manière pédagogique un certain nombre de règles qui existent mais dont je suis sûre que certains n'en ont pas conscience. Et ce droit à l'oubli, il est vraiment fondamental, d'autant plus pour les enfants.
Maintenant, une question que je me pose, c'est les influenceurs, ils ont un grand pouvoir, ils peuvent justement influencer leur audience d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, et donc je me posais comme question, est-ce que dans cette proposition-là, on va aussi condamner ou en tout cas réguler, je veux dire, des propos de fake news en fait qui pourraient être faits, ou alors c'est peut-être un peu trop difficile, et c'est là peut-être que le droit a peut-être ses limites aussi.
Ouais, alors on y a beaucoup réfléchi jusqu'où on va, est-ce qu'on se limite à une régulation sur tout ce qui va être fait d'un point de vue commercial, est-ce qu'on va également sur le terrain de rappeler tout ce qui va être sur la diffamation, le fait de pas inciter à la haine, comme c'est une loi à vocation aussi pédagogique, on vient rappeler un certain nombre de choses qui existent, donc la question c'était jusqu'où on va. Le souci c'est qu'on a surtout voulu mettre un gros pied dans la porte, créer un cadre, et à ce cadre ensuite pouvoir venir aussi greffer d'autres choses. Il y a déjà des choses qui existent sur la responsabilité qu'on a quand on dit des choses, on n'a pas le droit d'inciter à la haine, on n'a pas le droit d'insulter les gens.
Mais comme n'importe qui,
comme n'importe qui, et donc il faut rappeler que ça s'applique également aux influenceurs. qui d'autant plus ont, enfin, mobilisent une audience et donc leurs paroles ont encore plus d'impact. Après, on n'est pas allé surtout sur ce terrain-là, parce qu'à la limite, ce terrain-là, il est suffisamment balisé. C'était vraiment sur les pratiques commerciales où il y avait un doute. Après, par contre, là où c'est vraiment important, c'est que si j'utilise, par exemple, des arguments faux pour vanter les mérites d'un produit, typiquement, on a eu le cas récemment, une influenceuse française qui a été épinglée par les autorités françaises parce qu'elle faisait la promotion d'un patch qu'on colle sur le téléphone en disant que ça absorbait toutes les ondes du téléphone et qu'elle était enceinte, c'était la seule manière de protéger son bébé. C'est faux. Il n'y a aucune étude scientifique en ce sens, le produit n'a pas été testé, elle utilise des faux arguments.
Donc là, ça devient plutôt de la publicité mensongère.
C'est ça. Ouais. Ou des pratiques commerciales déloyales, voilà. Donc, c'est encore plus intéressant de venir réguler ce qui va être dit pour vendre un produit, parce que là, le dommage va encore plus loin, parce que c'est non seulement je diffuse une fausse information, mais cette fausse information fait acheter, et parfois des produits de mauvaise qualité, ou des produits nocifs, ou des produits illégaux.
Ça, c'est comme toute publicité, finalement. Donc,
voilà. Mais faut dire que à la télévision ou sur les médias papier, c'est un petit peu plus régulé parce que c'est un cadre plus ancien.
Et donc forcément, il y a déjà plus l'expérience que,
oui.
Évidemment, ici, c'est nouveau.
Oui, et puis l'influenceur, enfin, il peut être ou seul ou avec un agent, mais c'est pas une grosse boîte hein, qui va décider. Je reçois un mail d'une demande de collaboration, je vais checker un petit peu le site internet et tout ça, mais je suis pas expert. C'était donc super important de venir leur rappeler ce qu'ils ne pouvaient pas faire.
Mais donc justement, il y a aussi un boulot pour les entreprises, parce que les entreprises qui viennent, les marques hein, en l'occurrence, qui viennent contacter les influenceurs, moi j'ai pu voir comment ça se faisait dans le cadre de mon stage. On arrive, comme ça, on vient leur proposer le mail où on leur explique les bienfaits de la marque, etc. Et l'influenceur, c'est ce qu'il doit mettre en avant. Et il pourrait...
Ils ont un brief, hein.
Bien sûr, ils ont un brief. Et je ne sais pas, évidemment, s'ils ont plus le temps de regarder plus loin. Mais quelque part, un influenceur qui s'en fout et qui pourrait dire n'importe quoi et qui dit, c'est bon, je prends l'argent et ça me suffit comme ça. Il pourrait suffire à ce mail-là sans esprit critique.
Oui, oui, mais c'est ce qui est fait, je pense, par certains encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, je suis absolument certaine et j'ai des exemples très concrets d'influenceurs qui sont extrêmement responsables et très vigilants et qui appliquaient déjà, en fait, toutes ces obligations et qui s'étaient renseignés. Mais, en fait, il n'y avait pas vraiment... Il y avait un petit flou sur qui est responsable. Et là, c'est très clair.
Et c'est ça le problème.
C'est l'influenceur qui est responsable. Il peut toujours se retourner contre son agent parce que l'agent a également des obligations, notamment celle d'agir dans l'intérêt de l'influenceur qu'il représente. Donc, on peut se retourner contre l'agent si il se trouve que l'agent n'a pas respecté ces obligations-là, mais c'est l'influenceur par principe qui est responsable de la publicité qu'il réalise. Que les choses soient écrites sur le brief ou pas. C'est-à-dire qu'il y a écrit sur le brief que je dois dire que je peux vendre des cigarettes, je le dis, je suis responsable même si ça vient de l'entreprise. Et donc, il y a un vrai devoir de vigilance sur les influenceurs qui sinon vont se mettre dans une position où c'est eux qui sont en tort.
Maintenant, autre chose aussi, donc on disait que les influenceurs, c'était super important de réguler, les marques aussi. Maintenant, les plateformes, quels sont le rôle qu'elles ont à jouer là-dedans?
Oui, les plateformes ont un rôle très très important et donc c'est vraiment l'Union européenne qui s'est emparée de cette question-là il y a un moment déjà. Donc on bénéficie d'un super cadre juridique et en fait, les plateformes ont maintenant l'obligation donc de mettre en place une vraie possibilité de signaler les contenus illicites et cette possibilité est ouverte à tout le monde, c'est obligatoire, et il y a également ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. Les signaleurs de confiance, ce sont les autorités publiques, typiquement, ça pourrait être ici le SPF économie, et donc eux, s'ils font un signalement, avec ce statut qu'ils ont de signaleurs de confiance, les plateformes sont obligées, dans un délai très très court, d'y répondre et de se conformer à cette demande. Et là, on a souhaité agir, c'est que ça existait déjà, c'est pas encore extrêmement mis en pratique en Belgique, parce que c'est nouveau, mais on a souhaité agir pour pouvoir ajouter ça à ça des astreintes. C'est-à-dire que si les plateformes ne se conforment pas, l'administration belge va pouvoir mettre des astreintes journalières et donc contraindre ainsi les plateformes à agir. Parce qu'il y a une responsabilité qui est partagée à la fin.
Et c'est vrai qu'on a encore plus de moyens aujourd'hui que il y a 10 ans, 2015, 2013, il y a 10 ans, enfin 2015 comme je disais. Parce que le cadre juridique a évolué, comme on disait, il faut toujours un peu de temps, et c'est normal, on peut pas non plus arriver comme ça et claque d'une proposition, tout changer, non.
Non, mais bien sûr, et on est beaucoup mieux maintenant, on en parlait avec Vanessa Matz, donc qui porte ce dossier, parce que c'était également elle qui avait porté le dossier du revenge porn en Belgique.
Oui.
Comment condamner le revenge porn, donc c'était il y a déjà plusieurs années, et à ce moment-là, il s'était aussi cassé la tête sur comment agir au plus vite, comment obliger les plateformes à retirer ces contenus, parce que chaque minute compte à ce moment-là.
Ah, oui, oui.
Et donc, ils étaient passés par une autre voie juridique qui existait en Belgique, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de régulation au niveau de l'Union européenne, et encore moins d'obligation des plateformes, et donc ça avait été à ce moment-là un vrai problème, et on était quand même heureux de constater, quelques années plus tard, qu'on avait plus d'outils à notre disposition pour agir sur la responsabilité des plateformes.
Ah non, c'est très bien que c'est très joli la proposition, c'est très bien que quand il y a une loi, il y aura toujours des gens pour les enfreindre.
Bien sûr.
Voilà. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est comment sanctionner l'influenceur qui fait une bêtise ou une erreur, mm-hmm. ou plutôt une infraction à la loi. D'autant plus que l'influenceur, il a une communauté. Donc quelque part, s'il n'est pas d'accord, qu'il voudrait rejeter la faute, il pourrait aussi propager cet effet de fake news. Et donc, comment est-ce qu'on peut punir cet influenceur, je vais dire.
Alors, il y a des sanctions à plusieurs niveaux. Donc, il y a des sanctions administratives qui sont prévues donc par le code de droit économique et des sanctions au niveau pénal. En fait, ça va dépendre aussi de l'infraction que commet l'influenceur. Mais donc, on est sur les sanctions classiques qui s'appliquent également aux autres opérateurs du marché. Et l'influenceur peut être sanctionné pour publicité trompeuse ou publicité mensongère. Et donc, ça va être à la fois une amende et puis, en fonction de la gravité de la sanction, sur certains types, par exemple. L'interdiction de la promotion des produits du tabac, il y a également des peines de prison qui sont prévues. Donc ça dépend le niveau de l'infraction, les sanctions sont prévues, et on a également voulu compléter ça par la possibilité de rendre cette sanction publique. Et là où c'était intéressant, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà en droit belge, mais ça va être une publication papier. Et donc c'était comment adapter ça au monde de l'influence, et donc on est venu rajouter la possibilité de faire une sanction publique, donc c'est-à-dire dire l'influenceur a commis cette infraction et voilà la sanction. C'est une publication temporaire et qui va dorénavant pouvoir être faite avec cette proposition de loi sur les réseaux sociaux sur lesquels l'infraction a été commise.
D'où le fait que, enfin, c'est tout à fait normal finalement que ce soit publié de manière publique, parce qu'on parle de personnalité publique et c'est tout à fait normal que les gens doivent être au courant qu'il y a elles sont pas toutes des stars, mais que ces personnes-là soient condamnées et qu'elles ne sont pas intouchables non plus.
Bien sûr, bien sûr. Et si la sanction, en fait, si l'infraction entraîne un préjudice grave pour le consommateur, c'est normal que, voilà, l'infraction commise et la sanction qui est liée soient également portées à la connaissance des consommateurs, en fait.
Et jusque combien peuvent s'élever ces montants-là?
Par exemple, voilà, pour une infraction classique sur une publicité mensongère, on est sur une amende qui va de 250 à 10 000 euros, coefficient 8, parce que voilà, les amendes sont également indexées, et donc on va aller sur maximum 80 000 euros d'amende. Après, sur des infractions plus spécifiques, par exemple l'interdiction, par exemple si je fais de la publicité pour la chirurgie esthétique, là on peut être également sur des peines de prison.
Ah oui, carrément, donc on va... Ouais, ça y va quand même.
Voilà, donc nous, on a travaillé sur ça ces derniers mois, et on a vraiment envie que cette proposition soit la mieux accueillie vraiment au possible, et donc on a aussi besoin d'avoir des retours. Donc toi, t'es un jeune de 18 ans, j'imagine que t'es souvent sur les réseaux sociaux, peut-être que tu suis des influenceurs ou que tu en es un toi-même. Qu'est-ce que tu penses de cette loi ou de la manière dont il faudrait encadrer ce secteur?
Oui, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, forcément, c'est normal. Je pense que quand je passe 3 heures sur Instagram, on peut dire que je suis beaucoup dessus.
Oui.
Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ce ne se trouve pas parce que ce sont des influenceurs ou des petites stars que forcément on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est des personnes qui doivent être régulées comme n'importe quel citoyen. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elles auraient droit à des avantages supplémentaires par rapport aux autres. Et c'est ça qui est important dans cette proposition, et je suis vraiment content qu'il y ait ce genre de cadre. Bon, ça va peut-être rendre un peu plus difficile ma tâche plus tard en tant que relation publique, mais au contraire, je pense que
peut-être qu'on ne
essentiel.
Pourra plus se passer justement de conseiller en relations publiques, encore plus sur les réseaux sociaux.
Bah, d'un coup, finalement, je commence à apprécier vraiment plus. voilà. Mais il y a quand même un truc, moi, qui me fait un peu peur, et ça, je vais le dire en toute honnêteté, ce qui me fait peur, moi, c'est le côté un peu fake news. Qu'il ne risque pas aussi d'avoir une guerre entre les influenceurs et le droit qui pourrait contester ça? Ça, c'est quelque chose qui fait peur. Mais le problème, plutôt, ce n'est pas l'influenceur, alors c'est les réseaux sociaux qui...
Oui, bah, c'est toujours tout l'enjeu entre la liberté d'expression. On peut dire ce qu'on veut, mais en même temps, ce qu'on dit a des conséquences. Et donc, où s'arrête l'un, où commence l'autre? C'est vrai qu'on est toujours sur des nébuleuses, et quand on voit des gens qui mobilisent une ambiance énorme, enfin, je pense à Donald Trump sur Twitter, enfin, au moment où ils ont fermé son compte, je suis désolée, mais on a un peu respiré en termes d'informations, et je pense que ça a fait beaucoup de bien, mais en même temps, on a enlevé la parole à quelqu'un, donc le débat est toujours...
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça qui est très compliqué, mais ça, c'est de manière générale, qu'on soit un influenceur politique, un influenceur commercial ou n'importe quoi, je pense qu'il y a toujours une conséquence un peu négative quand il y a ce genre de choses qui sont mises en place, mais bon, à un moment donné, on peut pas non plus tout contrôler,
oui,
le droit
après,
à ses limites, et...
Après, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois aussi le bon côté de ça, c'est-à-dire que les informations qu'on voit sur les réseaux sociaux, alors oui, on voit beaucoup de conneries, mais on voit aussi beaucoup de choses qu'on ne lit pas ailleurs, et parfois des critiques qu'on ne verrait pas à la télévision ou dans des médias plus traditionnels.
Et ça, je suis absolument d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est parce que je suis toujours un peu, m'inquiète toujours un peu de ce qui pourrait être fait, mais c'est évidemment une très bonne chose, pour ça que je suis dessus, hein. Sinon moi je partirais, hein. Je suis tout à fait honnête. Donc c'est très très bien, enfin les réseaux sociaux sont une très bonne chose, évidemment. Mais parfois, ça peut vraiment apporter beaucoup de mal, que ce soit avec du harcèlement ou d'autres, d'autres choses comme ça. Donc, il faut quand même rester très prudent. Quand on parle de réseaux sociaux, bah, on parlait de mise en avant des enfants qui pourraient avoir une conséquence plus tard sur leur vie. Ça reste quelque chose dont il faut se méfier, mais ça reste un excellent outil aussi. Et donc, c'est ça qui est un peu bizarre avec les réseaux sociaux. Il y a du pour, il y a du contre. Oui. Et il faut le temps que le droit arrive aussi. Donc,
c'est vrai.
Je pense qu'avec cette première proposition, bah,
écoute, j'espère. C'est le but.
Alors, Emma, c'était super intéressant, très complet. Maintenant, on va aller sur quelque chose de plus léger.
Ok.
On va aller sur le « tu préfères ». Bon, alors, le staff de Génération Engagée nous a préparé un « tu préfères ».
Oui.
Alors, je vais te le lire. Est-ce que tu préfères avoir une option « retour en arrière » retourner sur un événement passé, j'imagine, ou alors faire pause sur ta vie ?
Ah non, 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 retour en arrière. Non, non, je pause sur ma vie... Une introspection de 5-10 minutes, oui, mais au-delà, je pense que c'est un petit peu trop. Et non, toi, tu préfères quoi?
Pourquoi aller dans le passé, en fait?
Bah, retourner en arrière, à la limite, je peux retourner à un moment où je n'existais pas encore, et donc découvrir des choses que je ne connais pas, voir d'autres choses. En fait, je crois que j'ai pas... Enfin, retourner en arrière pour faire des choses différemment que ce que j'aurais fait, non. Non, non, c'est... Je préfère rester dans la ligne, voilà, de mes choix, mais et pareil pour l'introspection, je pense que si je commence à mettre pause, je vais tout re-questionner
et puis j'ai l'impression quand tu mets pause, bah finalement bah tu peux le faire assez facilement, tandis que revenir
dans
le passé,
tu t'enfermes dans ta chambre pendant 10 minutes.
Donc moi aussi je reviendrai dans le passé, mais moi je pense à quelque chose de même plus précis. Moi ça concerne mes grands-parents, bah qui sont partis maintenant depuis 2015 justement, donc et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir parmi nous, etc. Et ce sont des personnes qui me manquent beaucoup, et j'avais 10 ans, j'étais tout petit, machin. Et ça me ferait vraiment plaisir de les revoir aujourd'hui.
Oui, tu pourrais prolonger de beaux moments que tu avais déjà vécu.
Surtout ça. Et je pense que quand on a 10 ans, on ne se rend pas compte, même parfois à 18, etc., on ne se rend pas compte forcément des gens qui sont autour de nous. Et je pense que je reviendrai dans le passé juste pour profiter des derniers instants, des bons moments, parce que j'ai de très bons souvenirs avec eux. Et c'est des gens qui me manquent énormément. Donc, voilà.
Après, je pense qu'on a la possibilité de faire ça juste en se remémorant les souvenirs. Hein.
Oui, mais ce n'est pas pareil quand tu serres des gens dans tes bras,
les
moments de Noël, etc.
Bien
c'est sûr. Voilà, il faut profiter des gens avec qui on est autour de nous pour ça, justement, parce que c'est une fois qu'on les perd qu'on se rend compte que c'était les personnes les plus importantes.
Absolument.
Écoute, maintenant, je te propose qu'on passe à la séquence coup de cœur pour un peu plus de positif. Alors Emma, ton coup de cœur, dis-moi.
Écoute, j'ai découvert il y a quelques jours le site internet Ouraille. En fait, j'ai découvert ça justement par Instagram. Donc c'est une application en fait qui fait des itinéraires de voyage en train.
Mais je me disais pas que je connaissais.
Ouais, j'ai découvert ça vraiment il y a quelques jours parce que j'étais en train de planifier mes vacances et j'essaye de moins prendre l'avion, même d'éviter de prendre l'avion quand je reste en Europe. Sauf que parfois les itinéraires c'est un peu compliqué à faire soi-même et donc j'ai trouvé ça et ça m'a vraiment sauvée. Et donc j'ai commencé à planifier mes vacances en train de nuit et c'est vraiment chouette. Et en plus ils te disent à chaque fois sur quel site tu peux aller réserver ton train en fonction de d'où tu pars et d'où t'arrives. Donc c'est vraiment mon coup de cœur en ce moment.
Je le partageais dans ma story parce que je l'ai découvert un peu plus, enfin il y a quelques mois je crois, mais
C'est vraiment trop chouette. En plus, ils rajoutent des nouveaux itinéraires tous les jours et il y en a de plus en plus qui partent de Bruxelles, donc trop bien.
Moi, mon coup de cœur, la dernière fois, j'ai dit ChatGPT, donc on va rester sur un truc assez technologique, façon de parler. Moi, c'était Duolingo que j'ai téléchargé
Duolingo.
Il y a une dizaine de jours. Bon, c'est génial. On va dire que ça me limite, enfin, que j'apprends un peu l'italien grâce à ça. Mais c'est sympa, je pense que ça peut être cool d'apprendre des langues, c'est joué, ça change des listes de vocabulaire d'espagnol, d'irlandais, allemand.
C'est plus,
c'est plus sympa. Bah écoute Emma, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour le podcast.
Merci.
Comment tu t'es sentie pour le podcast? Partage ça aux gens qui aimeraient bien venir mais qui hésitent.
C'était la première fois, donc j'étais un petit peu stressée avant de venir et puis finalement c'était très chouette. C'était vraiment chouette de pouvoir avoir plus de temps pour s'exprimer, pouvoir expliquer les choses un peu plus en profondeur. Donc non, je me suis très bien sentie. Merci de m'avoir mis à l'aise.
Bah Emma, si les gens devaient retenir qu'une seule chose de toi, qu'est-ce que ce serait?
Une seule chose de moi, je sais pas, mais peut-être sur un petit message, voilà, je suis une jeune fille qui vient de commencer à travailler dans le monde de la politique. Je sais que c'est un monde qui fait pas rêver tous les jeunes, et j'ai vraiment envie, voilà, de leur apporter peut-être ce petit message d'espoir. C'est vraiment chouette. On peut faire des vraies choses, avancer sur des projets super concrets. Là, c'était le cas sur les influenceurs, mais il y a plein d'autres dossiers qui sont super beaux. Et si on veut que ça aille aussi dans le sens où, voilà, ça répond aux attentes des jeunes, bah, il faut qu'il y ait plus de jeunes dans les équipes. Donc, voilà, je voudrais aussi les encourager à s'intéresser, nous interpeller, nous écrire, parce que des gens le font très fréquemment, mais moins de jeunes. Ouais. Donc, n'hésitez pas.
Tu peux me rappeler ton âge ?
J'ai 24 ans.
24 ans, bah voilà. Bah, du coup, Emma, bah, je te remercie.
Merci à toi.